Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, produite par Radiographie de Graphite.net et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com.
Ça va? Je t'ai pas aspergé de cambouis au moins?
Non, tout va bien.
Au sommaire aujourd'hui, une spéciale sortie bouquin, durant laquelle nous reviendrons sur Camp volume 3 soap opéra et Camp gay paru chez Marest éditeur de Pascal Français. On parlera également de Screaming Boys de Violaine de Charnage, ça c'est paru dans la collection Carnage chez Zone 52 édition. Et puis nous ferons un focus sur la collection Urban Comics Nomade. Nous reviendrons sur cette collection de poches qui réédite des grands classiques du comics. Également au programme Érotique Bazar 2, Chronique de l'Alcôve. Ça, c'est écrit et édité par David Didlot. David Didlot que nous retrouverons en deuxième partie d'émission pour un entretien. L'équipe de Culture Prohibée remercie Jérémy Grima et Pierre-Julien Marest pour leur aide sur cette émission. Nous vous rappelons que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, disponible sur le site de l'éditeur TheExtasyOfFilm.com, mais également sur celui des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr, et enfin dans toutes les bonnes librairies. À mes côtés pour causer sortie bouquin, je suis accompagné de Damien Demé, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, également créateur du podcast Écho du Temps disponible sur PodCloud. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Damien, tu vas nous accompagner durant cette émission en évoquant à intervalles réguliers une collection que tu avais déjà abordée d'ailleurs dans une précédente émission de Culture Prohibée. Je veux bien sûr parler de la collection Nomade d'Urban Comics, qui donc réédite des classiques du comics dans un format de taille moyenne à des prix très abordables.
Alors, ce sont des comics de poche très bien. Et en fait, la cuvée qu'ils viennent d'ajouter à leur collection est vraiment spectaculaire. Je vais vous en citer quelques-uns. Je ne vais pas non plus tout faire parce qu'il faut laisser la place pour les autres revues. Mais on retrouve notamment le Joker de Brian Azzarello et de Liber Mejo. C'est un comics avec un côté film de gangster, film noir très sympathique. On y suit le Joker, mais que je trouve beaucoup moins bien que leur Luthor, que j'espère qu'ils sortiront bientôt sous le même format. Et c'est un comics plutôt violent, en fait, mais très agréable. On suit un Joker dans son rôle totalement de clown du crime qui est vraiment réussi. Au même niveau, on retrouve aussi l'iconique Superman Red Son de Mark Millar, de Kilian Blunkett et de Dave Johnson, qui réédite encore une fois, qui avait été réédité sous le label Black Label d'Urban Comics. Alors, pour faire vite, on a affaire à une uchronie formidable dans laquelle Superman atterrit non pas au Texas, mais en Ukraine à l'aube de la Seconde Guerre mondiale et deviendra un super-héros soviétique.
Moi, je vais quitter la bande dessinée pour
Pour moi, pas complètement, puisque en même temps, c'est une. Je vais vous parler de la collection Carnage. Et la collection Carnage a quand même la particularité d'avoir des couvertures illustrées par Will Argunas, qui est un très bon illustrateur, dessinateur, graphiste, hein, et qui a illustré donc toutes les couvertures de cette collection Carnage parue chez Zone 52 Éditions. Bon, ce sera mon seul intermède graphique, hein, puisque pour le reste, c'est un roman dans la lignée de ce que produit la collection Carnage. C'est-à-dire quelque chose qui s'inscrit dans la continuité de Feu, la collection Gore, par exemple, hein, c'est-à-dire du sexe, de la violence. C'est évidemment des ouvrages qui ne sont pas à mettre devant tous les yeux. C'est réservé à un public averti, c'est écrit d'ailleurs au verso. Et c'est toute une série d'ouvrages qu'on peut trouver, entre autres, hein, d'ailleurs, sur le site des Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr. Et celui-ci, c'est le 10e ouvrage de cette collection. Vous savez que c'est une collection qu'on aime bien. On avait reçu, il n'y a pas longtemps, l'un des auteurs, hein, qui avait écrit, Julien Caldironi, qui avait écrit Milano Sanguina, précédent opus de cette collection. Et là, l'ouvrage qui s'appelle Screaming Boys est un ouvrage un peu particulier, c'est-à-dire qu'il y a une bande de mecs, une bande de beaux gosses, qui se retrouvent pour les besoins de ce qu'ils pensent être une sorte de télé-réalité ou de concours de bogossitude, voilà, sur une île isolée. Ils sont réunis là par une production qui les a réunis, qui les a castés, qui les a choisis. Et évidemment, bah, ils vont se faire massacrer sur cette île. Voilà, sinon on n'est pas dans la collection Carnage. Et là, pour le coup, c'est un carnage, sans K mais avec un C. Et un carnage qui a la particularité, en dehors de son côté jouissif et voilà, assez marrant de toujours voir la virilité mise à mal de telle sorte. C'est surtout que moi, ce que j'aime bien dans ce bouquin, alors vous allez me dire, c'est peut-être un peu gadget, mais j'aime beaucoup ça, c'est qu'il y a une playlist, une playlist Screaming Boys qui est disponible sur Deezer, et il suffit de flasher le flashcode qui est en fin d'ouvrage, car chaque chapitre propose une bande-son, en fait. Donc le premier chapitre, par exemple, Journée de merde à la plage, c'est le titre du chapitre, propose d'écouter Cruel Summer de Bananarama, un morceau de 2001. Alors je vous rassure, il y a aussi des trucs plus sympas, hein. Par exemple, vous pouvez écouter Ultra Vomit, I Like to Vomit, hein, voilà. Et vous pouvez écouter Boys de Sabrina, ça c'est très sympa pour les gens de ma génération, hein. Mais enfin, la playlist cadre effectivement assez bien. Il y a aussi du AC/DC, du Madonna. Enfin, il y a des choses un peu plus sympas. Il y a le Rape Me de Nirvana, évidemment, qui a un rapport avec l'intrigue. Vous vous doutez bien, puisque ce livre est une sorte de rap and revenge mélangé avec beaucoup de gore, un petit côté fétichiste SM, assez rigolo, à travers un personnage en particulier, enfin une personne en particulier, un bouquin assez étrange que je vous conseille de vous procurer si vous avez si vous ne supportez plus la télé-réalité et que vous avez envie de voir une bande de décérébrés se faire décimer, parce que quelque part, ils l'ont bien cherché sans le chercher, les pauvres. Voilà. Donc, ça s'appelle Screaming Boy, c'est signé Violaine de Charnage et c'est disponible dans la collection Carnage chez Zone 52 Éditions. Pain, pain. Vous écoutez Culture Prohibée. On va maintenant passer des Screaming Boys, donc des hommes qui se font massacrer, des garçons qui crient et qui se font massacrer sur une île isolée, au dernier homme. Et oui, au dernier homme sur Terre, hein, dans un comics ultra culte qui s'appelle Y, le dernier homme, une création de Brian K. Vaughan. Je ne sais pas si je le prononce très bien, d'ailleurs, mais qui est vraiment un comics qui a là aussi marqué l'histoire de comics et qui se retrouve dans la collection Nomade, un de plus, mon cher Damien.
Y, le dernier homme, de Brian K. Vaughan et de Pia Guerra, si je ne me trompe pas dans la prononciation, qui se passe dans un monde post-apo où tous les hommes, enfin mammifères avec le chromosome Y, ont disparu, sauf un homme et un singe. On le suit donc évoluer dans une société 100% femme qui a empêché de justesse notre civilisation de sombrer dans les méandres de l'histoire. Alors, la particularité par rapport aux autres tomes de cette collection, c'est que cette fois, il est en deux, c'est-à-dire un tome 1 et un tome 2. Ce sont les débuts du comics, vu qu'il y a beaucoup plus de tomes, un peu ce qu'on a eu avec Fable ou The Transmétropolitan. Pour rester dans le domaine comics, je vais également vous parler d'un autre tome qui, lui, a bien marqué les esprits et que tout le monde s'accorde à dire que plus qu'un classique, c'est une œuvre culte. C'est Kingdom Come de Mark Waid et de Alex Ross, qui se passe dans un futur proche où les super-héros d'antan sont à présent dépassés par une nouvelle génération bien plus agressive et amorale. Néanmoins, lorsque ces surhommes rayent accidentellement de la carte le Kansas, Superman est obligé de sortir de sa retraite pour venir inculquer le goût de la vérité et de la justice. Alors, c'est dessiné par Alex Ross, ce qui fait que c'est magnifique. Alex Ross, c'est un dessinateur, pour ceux qui ne le savent pas, qui a un dessin très réaliste à la Norman Rockwell, ce qui est toujours surprenant de voir un Superman aussi bien dessiné ou un Batman. C'est une histoire géniale qui parle beaucoup du conflit générationnel, mais aussi de ce que tend à être la société, qui souvent veut devenir de plus en plus violente face à une menace odieuse, d'essayer de la comprendre et d'arranger les choses. Et c'est un comics sur lequel il faut mettre la main dessus, parce que James Gunn, qui maintenant dirige l'univers cinématographique de DC, l'a énormément mis en avant d'annoncer son plan. Et pour le coup, on ne sait pas si on aura affaire à un film qui sera en dehors de la continuité, comme sera The Batman 2 ou le Joker, ou bien si ce sera le Superman qui va l'inspirer pour faire son film. On finit avec deux énormes coups de cœur. Alors déjà, Justice League tome 1 de Geoff Johns, Jim Lee et Ivan Reis, qui est l'un des tout premiers comics que j'ai acheté, et c'est le tout premier de la Justice League que j'ai pris. Du coup, il a une énorme importance dans mon cœur. Alors l'histoire, c'est simple, il y a 5 ans, nul ne connaissait l'existence des super-héros. Quand apparaissent Superman, Batman, Green Lantern et Wonder Woman, les autorités, effrayées par la puissance de ces individus, les déclarent hors la loi. Cependant, lorsque Darkseid projette de conquérir la Terre, les humains se placent sous la protection de leurs héros. Voici le récit de la première union des super-héros, bientôt connue sous le nom de la Ligue de Justice. Alors, je trouve absolument génial dans l'histoire des comics, il arrive après Flashpoint Paradox, qui est un event qui modifie le cours du temps, qu'on va bientôt avoir en film, et dont la mise en avant par James Gunn du comics a fait exploser les ventes, ce qui fait qu'il est en rupture. Enfin, tous les projets que James Gunn a annoncés, il y a lié les comics, et tous les comics maintenant aux États-Unis sont actuellement en rupture. Flashpoint, c'est un comics qui a déjà été édité par DC, qui a été édité en version normale, qui a été ensuite édité en version estivale, et qui a été édité lors de la première édition Nomade qui avait eu lieu. Et du coup, il est logique que ce comics Justice League lui fasse suite. Après cette modification du temps par Flash, en fait, toute la chronologie est bouleversée, ce qui permet à DC de réécrire plusieurs histoires, dont celle-ci qui raconte la première rencontre entre les héros de la Ligue. Je suis absolument fan. Geoff Johns, pour moi, c'est un très bon auteur. Ses arcs sur la Justice League sont excellents, inégaux, mais excellents. Je sais qu'il divise, je sais pourquoi il divise, mais il reste pour moi un des meilleurs auteurs, en tout cas bien mieux que Scott Snyder, qui pour moi fait beaucoup plus d'erreurs et qui est pour autant adulé. Et si vous voulez débattre, je suis prêt à débattre avec vous avec plaisir, je vous attends même pour discuter de lequel meilleur ou non. Mais voilà, je trouve que c'est une histoire en plus qui est magnifiée par les dessins de Jim Lee et Ivan Reis, qui utilisent par exemple des doubles pages pour montrer toute la puissance d'un personnage, notamment lorsque Green Lantern essaye d'enfermer Superman dans des chaînes et que Superman les fait exploser dans cette scène extrêmement connue de Superman qui fait toujours éclater des chaînes. On a un affrontement entre Batman, Green Lantern et Superman qui est incroyable, qui se termine de façon spectaculaire. Vraiment, il y a toutes les rencontres entre les personnages sont jouissifs. La première fois que Batman rencontre Green Lantern, qui discute, et qu'au final, d'un plan, on voit juste Batman qui d'un coup parle en tenant la bague de Green Lantern et qui est en mode il n'y a pas d'interrupteur, du coup ça va fonctionner par la pensée. Sur l'autre plan, on voit Hal Jordan qui a perdu sa tenue et qui ne s'est pas rendu compte que Batman lui avait pris. Juste derrière, Hal Jordan qui est fâché, qui essaye de comprendre ce que Batman fait. Il fait tu bois du sang, tu voles, Batman ne réagit pas, et d'un coup Green Lantern lui fait mais me dis pas que t'es juste un mec avec un costume de chauve-souris, ce à quoi Batman se retourne, lui sourit juste et continue sa route. Mais voilà, c'est une histoire que j'adore et que je trouve ultra facile à décrire parce qu'elle est drôle, elle est titanesque et elle est épique. Dernier cuvée remarquable de l'univers nomade et qui m'a permis de le découvrir car je ne l'avais pas lu jusqu'à présent, c'est V pour Vendetta par Alan Moore et David Loy. Alors l'histoire se passe dans une société anglaise post-apocalyptique où un parti fasciste prend en main le pouvoir et tente de rétablir le pays après avoir procédé à une épuration ethnique, politique et sociale sans aucune pitié. Et au moment où le parti semble avoir la situation sous contrôle, un anarchiste commence une campagne pour ébranler tous les symboles du pouvoir. Cet anarchiste, qui se fait appeler V, porte un masque représentant le visage de Guy Fawkes, le plus célèbre membre de la conspiration des poudres. Lors de sa première action d'éclat, le dynamitage du palais de Westminster, V sauve Evie, une jeune fille de 16 ans qui risquait d'être violée par la police, puis exécutée pour prostitution. Alors, je reparle encore d'une œuvre de Alan Moore, parce qu'Alan Moore est génial. Juste avant, dans la première édition Nomade, on avait eu Watchmen qui avait été publié, ce qui m'avait permis également de le lire, parce que passer de 30 euros à 10, c'est extrêmement pratique pour les économies. Ce qui est intéressant et ce qui est dans la préface de celui-là, c'est que Alan Moore explique qu'il a débuté V, qui ne savait pas trop où il voulait aller. Entre-temps, il a fait Watchmen et plein de comics extrêmement connus, et c'est après ça qu'il a fini V. Et c'est à travers ce temps qu'au fur et à mesure, il a trouvé la direction qu'il voulait prendre. Ce que j'aime bien avec V, et que je m'en suis rendu compte depuis quelques temps, c'est qu'il y a plein d'œuvres qui sont sorties dans les années 80 qui prédisait un peu que le 21e siècle allait être un siècle fasciste et qu'on risquait de retomber dans la Seconde Guerre mondiale. Et c'est intéressant que je trouve que c'est un sentiment qui ressurgisse à la fin du siècle et qu'au final, c'est une tension plutôt présente actuellement qu'on est en train de ressentir avec tout ce qui peut être fascisme ou épuration de certaines ethnies qui sont des discours qui auraient dû disparaître mais qui malheureusement sont encore présents. Et parmi les thématiques qui frappent aussi dans le comic, c'est la poésie de V qui, j'avais vu le film et je savais qu'il avait quelques envolées qui étaient magnifiques, mais il y a des moments qui sont tout simplement spectaculaires, qui sont magnifiques, sublimes, vraiment c'est... Faudrait que je réapprenne un peu tous les adjectifs que j'utilisais pour décrire de la poésie, mais il y a des moments qui sont incroyables. Par exemple, vous avez un monologue que fait V à la statue de la justice, qui est tout simplement somptueux, où finalement il décrit son histoire d'amour avec la justice, que celle-ci l'a trahi et que depuis il a rencontré une maîtresse qui, elle au moins, ne lui fait pas de promesses qu'elle ne tient pas, qui est l'anarchie. Et c'est ça qui est beau dans V, en fait. Il a un idéalisme de l'anarchie en réaction à l'omni-ordre, à une autorité toute puissante, ou comme le dit d'une certaine façon Bégodeau dans son livre Notre Joie, face à un idéalisme de l'extrême droite. V n'est pas la résistance, en fait. Il n'essaie pas de remettre en place ce qui a été présent avant. Il est simplement un symbole de liberté absolue. What comes is better than what.
Vous écoutez Culture Prohibée, spéciale sortie bouquin.
Après autant d'anarchie, mon cher Damien, je vais me diriger vers un ouvrage où sévissent quelques anarchistes d'ailleurs, quelques cinéastes underground qui se revendiquent pour certains de postures anarchistes. Je vais te parler, je vais en parler rapidement parce que bientôt son auteur sera dans notre émission. Vous le savez, si vous écoutez régulièrement notre émission Culture Prohibée, vous savez à quel point nous aimons Pascal Français, hein, Pascal Français avec sa plume alerte, érudite. Eh bien, sachez que vient de paraître, toujours signé Pascal Français, son dernier volume, son volume 3, Soap Opera et Camp Gay, consacré au camp. Eh oui, le camp, ce genre, alors c'est pas moi qui le dis, c'est Pascal dans son ouvrage, Pascal Français dans son ouvrage, ce genre où règne la dérision par l'outrance, la sublimation par le grotesque. Comment ça, vous ne savez pas ce qu'est le camp? Eh bien, regardez la série Batman, par exemple, la série Batman avec Adam West. Et ça, c'est du camp. Voilà, ça vous parle un peu plus. Bon, vous connaissez un peu le camp, hein, de toute façon, puisqu'on a déjà reçu Pascal à l'occasion de la sortie des deux premiers volumes de ce gigantesque travail autour du camp, ce travail unique, ce travail passionnant, où là, dans ce troisième volume, ce dernier volume donc de cette étude consacrée au camp, Pascal Français, l'auteur, nous replonge, hein, dans les mélodrames d'Edouard Mitrick. Et oui, parce qu'Edouard Mitrick a un côté un peu outré comme ça dans ses mélodrames, un côté un peu dingue, un peu bigger than life, comme on dit parfois chez nos amis anglophones. Voilà. Et puis, évidemment, il revient parce qu'il aime ça, parce que c'est étroitement lié au camp, sur le parcours de certaines divas, certaines stars du cinéma propre à leur époque, qui quand même ont fini par devenir des icônes camp. On va bien sûr parler de Lana Turner, de Liz Taylor, évidemment. Et puis, alors moins connu dans cet ouvrage, il va nous parler d'un réalisateur qu'on aime bien, nous, dans l'émission, mais on n'avait jamais abordé sous l'angle du camp, c'est Delmer Daves, qui a signé des soap opéra adolescents. Et puis, on parle aussi de John Schlesinger, hein, qui n'a pas réalisé que Macadam Cowboy et Marathon Man, mais qui a aussi réalisé, par exemple, ce film démentiel qui est Le Jour du Fléau, que je vous conseille vivement. Mais pour moi, ce qui est de plus intéressant, ce qui est de plus passionnant dans ce nouveau volume, c'est justement tous ces cinéastes underground. Alors, on connaît Kenneth Anger, on va essayer de le prononcer correctement, mais il y a, moi j'ai adoré toute la partie sur Jack Smith, bien sûr, mais surtout les frères Cushard que j'ai découvert, moi, à cette occasion. Et oui, je ne connaissais pas les frères Cushard, enfin, je connaissais de nom, mais je ne savais pas du tout ce qu'ils avaient fait. Et là, on plonge vraiment dans un univers totalement à part, où l'avant-garde se mélange à une sorte de folie comme ça. Enfin, je sais même pas comment Pascal Français a réussi à voir tous ces films qui hautement improbables, mais qui du coup sont hautement indispensables. En tout cas, quand on lit leur analyse sous la plume, leur recension sous la plume de Pascal Français, évidemment, on a envie de les voir. Et puis il termine l'ouvrage sur un cinéaste qu'il aime par-dessus tout, John Waters, et évidemment, on parle de John Waters, on parle de Divine, qui fait d'ailleurs la couverture de ce camp volume 3, qui est préfacé par Jean-Pierre Bouixou, qui d'ailleurs, lui, a des mots pas forcément identiques à ceux de Pascal Français sur John Waters, mais tout cela, on en parlera avec Pascal Français, qui sera donc bientôt en interview dans notre émission, pour parler donc de ce camp, volume 3, Soap Opera et Camp Gay, qui est donc paru chez Marest Éditeur. Nous allons terminer cette émission en compagnie de David Didlot. David Didlot, qui, avec la complicité aussi de Didier Lefebvre, pour un article sur les Schumacher Report, une série de films coquins, voilà, nous a sorti récemment, David Didlot, donc son érotique bazar Chronique de l'alcôve numéro 2. Nous n'avions pas pu parler du numéro 1, même si nous l'avions lu avec intérêt. Et cette fois-ci, il se trouve que non seulement nous avons réussi à le lire, nous avons réussi à profiter de cet ouvrage, et en plus on vous le propose dans la boutique des films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr. On vous le propose, et précipitez-vous parce que les quantités sont très limitées, et si c'est comme le précédent, il va être très vite épuisé, puisque le volume 1, nous n'avions pas eu le temps de le mettre en ligne dans la boutique, qu'il était en fait déjà épuisé. On nous avait déjà réservé tous les exemplaires. Alors là, donc, de quoi parle ce volume 2? Eh bien, il parle de l'actrice Uschi Karnath, voilà, Madame Nova, pour les intimes, qui est une actrice allemande qui a travaillé dans le cinéma, on va dire, pour adultes. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, il y a plein de choses dans cet ouvrage, c'est qu'il y a une grande partie sur des actrices qui ont fait de longues années du cinéma traditionnel avant de dériver vers le cinéma pornographique. Alors, il y a Karine Schubert et Lily Carati, la belle Lily Carati, dont on avait parlé, par exemple, pour le film « Avoir 20 ans », qui est un film incroyable de Fernando Didio, qui a été édité par nos amis d'Artus Film. Mais je pense que le plus simple, pour discuter de tout cela, de ces sujets pour un public averti, c'est de tout de suite nous connecter avec l'ami David Didlot, donc David Didlot, au micro de Culture Prohibée. David Didlot.
Bonjour Jérôme.
Alors nous sommes aujourd'hui réunis dans Culture Prohibée pour aborder le numéro 2 d'Érotique Bazar, donc érotique avec un C à la fin d'érotique, Érotique Bazar 2, Chronique de l'alcôve. Et tout d'abord, moi, ce que j'avais envie de te poser comme question, David, c'était pourquoi avoir fait le choix, parce que pendant longtemps tu as été le fan éditeur de Vidéotopsie. D'ailleurs, la revue s'appelle Vidéotopsie, le cinéma bis autopsie, et présente Érotique Bazar, donc pour dire le titre complet. Pourquoi le choix aujourd'hui de passer à un fanzine? Alors d'abord, est-ce que tu envisages de le publier régulièrement? Ça va un peu remplacer Vidéotopsie qui nous manque. Et pourquoi écrire sur l'érotisme et la pornographie uniquement dans ce fanzine? Pourquoi ce choix?
Alors écoute, alors déjà pour répondre à une de tes questions, oui, je pense, si tu veux, poursuivre dans cette voie-là. Je suis déjà en préparation du numéro 3, j'ai déjà là, à peu près la moitié tu vois, du numéro 3 qui est déjà dans la boîte, on va dire. Et donc, je pense poursuivre. Alors pourquoi? Parce que, si tu veux, c'est un genre bon, que je connaissais, que je fréquentais un peu, même pendant les années d'Idéotopsie, sans en avoir jamais véritablement parlé. Bon, et puis je me suis aperçu, si tu veux, que c'était un genre plus riche qu'il n'y paraissait, malgré un côté masturbatoire, évidemment, de ces films, malgré le côté répétitif, malgré une syntaxe qu'on retrouve de film en film. Il me semblait, si tu veux, qu'il y avait quelque chose à explorer, que c'était un territoire dont on avait déjà parlé, bien sûr, Zimmer, etc., on avait parlé, mais il me semblait que oui, c'était un territoire à explorer avec ses habitués, avec ses spécialistes, avec ses actrices, avec ses acteurs, et que ça formait parfois une espèce de famille comparable en fait à celle du cinéma bis, quoi. Ces réalisateurs avec les habitués de tels réalisateurs, justement. Bref, y avait quelque chose à explorer. Il y avait un territoire à défricher, me semblait-il, notamment dans ce qui m'intéresse le plus, dans le cinéma érotico-porno, c'est-à-dire le cinéma européen, hein, comme tu as dû t'en apercevoir. Et donc, c'est ça qui m'a poussé, si tu veux, à creuser ce sillon. D'autre part, il me semble, alors là c'est tout personnel, il me semble, si tu veux, que beaucoup a été dit sur le cinéma bis au sens large, tu vois, à travers ses différents rayons, ses différents genres, l'horreur, le polar, etc. Et c'est pas que j'étais arrivé au bout, loin de là, parce que le cinéma bis c'est un puissant fond, comme tu le sais, hein, tu creuses et puis tu trouves toujours quelque chose de nouveau, mais il me semblait que c'était comme je te disais, un territoire encore assez vierge finalement, si on voulait vraiment rentrer dedans, quoi, si on voulait vraiment creuser le sillon. Et donc ça m'a poussé à ce genre de publication. Et puis j'ajoute aussi que, si tu veux, dans une époque, une période très très puritaine, tu vois, hein, où tous les puritanismes se conjuguent en quelque sorte, hein, on est à la conjonction là de tous les puritanismes, me semble-t-il, hein, qu'ils soient politiques, religieux, etc. Il me semblait, si tu veux, que c'était, en tout cas pour moi, à mes yeux, hein, une espèce de bouffée, tu vois, d'oxygène, hein, je vois aussi comme ça, hein, par comme quelque chose de militant, mais enfin quand même, tu vois, qui pouvait constituer, oui, je te dis, une espèce de bouffée d'oxygène, comme je te disais, quoi, pour les lecteurs intéressés, quoi, hein, parce qu'on n'a plus le droit de rien dire, plus le droit de rien faire, il faut prendre moult précautions maintenant quand tu parles, quand tu écris, et là, si tu veux, je me suis dit, on va aller contre tout ça, quoi, tu vois, voilà.
D'ailleurs, c'est ce qui anime l'édito de ce érotique bazar 2. Alors, ce érotique bazar 2, David Lidlow, il est consacré à, en partie, hein, parce qu'il y a plusieurs sujets, on va y revenir, mais il est consacré à deux actrices qui ont eu des destinées singulières et proches, même si ce n'est pas pour les mêmes raisons, et qui sont passées du cinéma tout public au cinéma X, hein, au cinéma porno. C'est Karin Schubert, pour commencer. Et puis Lily Carati, hein, qui elle, cette brune d'une grande beauté qui a beaucoup travaillé des sexy comédies à l'italienne, et au moins dans un chef-d'œuvre, Avoir 20 ans de Fernando Di Leo, qui elle, c'est un peu différent, elle a connu une destinée tragique comme d'autres actrices. À l'époque, il y avait un contexte très particulier en Italie, on faisait un peu la chasse aux acteurs, s'ils fumaient un pétard, ils perdaient la garde de leur gamin, ils étaient condamnés très lourdement, ils ne pouvaient plus travailler dans le milieu du cinéma, donc on a eu quelques actrices comme ça qui se sont tournées vers la pornographie pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Lily Carati en a fait partie, Et puis il y a eu le cas Karin Schubert que tu décortiques également, qui est cette actrice qui était déjà un peu un sexe symbole aussi, comme Lily Carati, avant de passer au porno, et qui elle a fait par contre une longue carrière dans la pornographie.
Oui, tout à fait. Hein. J'aime pas le mot, hein, mais on va l'utiliser malgré tout, parce que il y a tout de suite une connotation péjorative. Mais elle bascule en fait dans le cinéma pornographique, si tu veux, oui, au milieu des années 80, on va dire, hein, 84-85. Hein. Si je compte les séances photo aussi, hein, tu vois, pour certains magazines porno. Son premier film porno, c'est 85, hein, c'est Cora, bourgeoise ou putain en français. Hein, d'Andrea Bianchi, hein, qui n'a pas fait que le Manoir de la Terreur. Enfin, parenthèse, il y a ça aussi d'intéressant, de voir que certains réalisateurs de cinéma bis, justement, ont aussi donné, tu vois, dans le porno, hein, par exemple. Et Karin Schubert, c'est vraiment, c'est pour des raisons, si tu veux. Alors, c'est pas que c'est mal connu, tu vois, mais on nage quand même dans les suppositions, on va dire, mais problème de drogue, fils en tout cas problématique, tu vois, problème de drogue, mauvaise rencontre, besoin d'argent, crise aussi, du cinéma italien, tu vois, hein, qui va pousser certaines actrices justement à la facilité pour gagner de l'argent, quoi. Et donc qui va l'entraîner effectivement dans le cinéma porno, quoi. Hein, voilà. Et elle va effectivement quiller les titres. Hein. Je crois que Lily Carati, si mes comptes sont justes, elle doit avoir fait 5 films, tu vois, 5 films estampillés X, hein, 5 films porno, 5 ou 6 films porno. Tandis que Karim Schubert, ça doit être aux alentours d'une vingtaine, quoi. Hein. Donc elle a une vraie carrière dans le X, hein, effectivement. Ouais. Alors c'est pas tout à fait le cas de par exemple, tu parlais d'autres actrices, hein, mais de Paola Senatore, par exemple, hein, qui également était dans le cinéma érotique, également dans la sexy comedy. Bon, et puis qui a tourné un film porno, tu vois, hein, pour des histoires de drogue, quoi. Hein, pour payer ses doses, a priori, tu vois. Bon, et donc voilà, mais Karine Schubert, oui, effectivement, a une carrière beaucoup plus longue dans le genre. Ouais. Ouais.
Écoutez David Didlot au micro de Culture Prohibée.
L'étoile filante auquel tu consacres aussi quelques pages, dont on parle peu en fait, Lily Carati comme actrice, et qui a quand même, ce que je disais à l'instant, fait au moins un chef-d'œuvre, avoir 20 ans, qui est quand même un film extraordinaire.
Ah ben non, mais attends, mais ça pour moi c'est son chef-d'œuvre, tu vois, et c'est même, je dirais même, c'est pour moi probablement le meilleur film de Fernando Di Leo, déjà pour commencer. Bon, et puis c'est effectivement son chef-d'œuvre avec Gloria Guida. Bon, c'est un film sur la fin des utopies, quoi, hein. C'est un film qui nous ramène très brutalement au réel. Bon, effectivement, elle a fait aussi, alors bon, avoir 20 ans, donc c'est un vraiment chef-d'œuvre. Bon, elle a également tourné, comme tu le disais, dans quelques sexy comédies, elle a tourné dans des films érotiques. Alors bon, il y a eu le passage qui, si tu veux, quand même de l'érotisme avant le porno. Hein. Elle a tourné aussi, tu sais, pour la film Mirage, hein, pour les meilleurs d'ailleurs films, à mon avis, de la film Mirage, hein, avec Joe D'Amato, tu vois. Notamment le Méconnu, hein, qui est pourtant un super film, le Méconnu, Lussuria, hein, tu vois, au milieu des années 80, de D'Amato. Hein. Et puis, elle a eu un accident. Elle s'est arrêtée pendant quelques temps. Même si c'est pas très élégant, mais mais les réalisateurs en ont parlé eux-mêmes, hein, réalisateurs de films porno, Paolo Di Testo, je crois, bon, des problèmes de drogue, quoi, si tu veux, et bon, il fallait aussi payer ses doses, quoi, donc voilà, hein, bon, elle n'y est pas restée très longtemps, ensuite, elle a fait une espèce de mea culpa à la télévision italienne, bon, voilà, qui a marqué les esprits, d'ailleurs, et puis elle est décédée d'une maladie, quoi, voilà, oui, elle a un destin absolument tragique, et comme tu disais, une étoile filante, réellement, quoi, hein, parce que elle était à la une de magazine sexy, c'était une star, quoi, hein, donc, elle finit très très mal, quoi, hein, après une petite apparition, je crois, son dernier film, il semble que c'est un film de Luigi Pastore, je crois, où elle apparaît dedans, bon, voilà, mais rien du tout, quoi, dans les années 90, ouais.
Dans cet érotique bazar 2, donc chronique de l'alcôve, qui est disponible dans toutes les bonnes épiceries, David, tu fais un dossier sur Uschi Carnat. Alors là, j'étais assez surpris, alias, ouais, on connaît plus sous le nom de Sandra Nova, hein, qui est une, alors qui est pas très connue peut-être par chez nous, mais qui est une vraie porn star en Allemagne, voilà. Et ne serait-ce que de par la longévité de sa carrière et de par le fait qu'elle assumait totalement, son choix de vie, sa sexualité débridée, y compris dans des films pas toujours très ragoûtants, on va dire, tradition allemande oblige. Pourquoi ce choix de cette actrice, qui est un choix plutôt atypique en fin de compte ?
Oui, alors si tu veux, c'est parce que bon, moi je l'ai rencontré entre guillemets, si tu veux, j'ai croisé son chemin dans un cycle qui m'a beaucoup intéressé, dont j'ai beaucoup parlé dans le premier Érotique Bazar, qui était le cycle Joséphine Mutzenbacher, tu sais, cycle allemand consacré à cette cocotte, cette courtisane viennoise, hein, plus ou moins légendaire, bon, hein, si tu veux, Uschi Carnat, donc Sandra Nova, jouait le personnage de Joséphine, donc, hein, une espèce de courtisane, de bordel un peu, de luxueux, etc. Bon, c'était du porno en costume, on va dire. Elle jouait dans les épisodes 3 et 4, et bon, c'est une actrice qui m'avait marqué, dont le regard m'avait marqué, notamment, et là, les prestations purement hardcore. Et puis j'ai revu les deux films, peut-être les plus connus, hein, de Sandra Nova, parce qu'ils sont sortis en France en VHS, qui sont les orgies de Rasputin, si tu veux, et puis Catherine à Darine Nue, tu sais, des productions à Loïs Brumeur, hein, qui étaient sorties chez René Château en VHS, et qui étaient des films, bon, qui m'avaient marqué, quoi, tu vois. Et elle tenait le rôle principal de Catherine Lazzarini, et elle jouait aussi dans les orgies de Rasputin, qui sont deux méga productions porno, quoi, hein, vraiment, hein, qui sont parmi les films les plus chers de l'histoire du cinéma pornographique, avec le Caligula de Tintobras, enfin, tu vois, on est dans cette catégorie-là, quoi, hein, on est dans cette division-là du porno. Et c'est une actrice qui tout de suite m'a plu, quoi, m'a envoûté en quelque sorte, et j'ai commencé à creuser sa carrière, j'ai commencé un petit peu à aller voir ce qu'elle avait fait, et je me suis aperçu en fait que sa carrière, c'est ça qui m'a intéressé, c'est pour ça que j'ai choisi de consacrer un énorme dossier à elle, à ce personnage, c'est parce que sa carrière, si tu veux, embrassait à peu près toutes les saveurs du cinéma porno. Tu vois, notamment allemand, hein, comme tu en parlais tout de suite, bon, autant les belles choses, tu vois, je pense donc aux Joséphine Mutzenbacher, ou alors aux productions à Loïs Brumeur, qu'aux choses, bon, les moins ragoûtantes, quoi, hein, les plus cradoc, on va dire, tu vois, parce qu'effectivement, elle a joué dans des choses, bon, qui sont pas piqués des verres, quoi, tu vois, où il y a pas mal de fluide, si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, et ça me semblait être une actrice qui exemplifiait assez bien, justement, tu vois, tous les parfums, hein, sans mauvais jeu de mots, qu'on pouvait trouver dans le cinéma pornographique allemand, tu vois. We'll be right back.
Vous écoutez David Didlot, auteur de Érotic Bazar 2, Chronique de l'Alcôve, au micro de Culture Prohibée.
La comédie, hein, aussi, hein, la comédie pornographique, bon, qui peut inspirer, tu sais, des Lederhosen films, hein, une comédie bavaroise, mais elle a sauce hardcore. Également, la comédie érotique, alors, qui pourrait ressembler, si tu veux, à la sexy comédie italienne, tu vois, mais dans un cadre allemand, bon, avec des jeunes filles, voilà, mais avec, sur un ton un peu comique, et puis du gros hard, quoi, tu vois, du gros hard, bon, presque gonzo, entre guillemets, tu vois, et puis de la grosse production, donc, avec les orgies de Rasputin, et puis Catherine Lagarinu, ou les Joséphine Mutschenbauer de Gunther Otto, tu vois. Voilà, et ça me permet, si tu veux, moi, ce qui me plaît, si, bon, dans ce genre de choix un peu étrange, effectivement, parce que c'est pas une des actrices les plus connues du genre, loin de là, c'est aussi de pouvoir, comme ça, aborder par la bande, comment dire, certains réalisateurs, tu vois, qui ont des filmographies longues comme le bras, hein, qui ont fait plein de choses, mais dont personne ne parle, quoi, tu vois. C'est ça aussi qui m'a poussé l'écriture des Érotic Bazar. Hein, je te parlais de Gunther Otto, par exemple, hein, bon, qui a fait plein de choses. On pourrait parler d'Hans Billian aussi, bon, qui est vraiment une référence, quoi, dans le genre, hein, en Allemagne. Hein. Bon, voilà, des réalisateurs comme ça qui méritent ouais, bien plus que l'oubli dans lequel ils sont tombés, quoi. Hein, voilà. Et puis, c'est pour ça donc, que j'avais choisi Uschi Carnat. Ouais, et puis elle a, alors autre chose aussi, elle a, parce que bon, l'époque voulait ça, et dans les années 80, elle joue aussi bon, dans des productions, alors allemandes, oui, mais tournées en France, tu vois. Donc, bon, une espèce d'internationalisation comme ça des castings, et on va la trouver, bon, je sais pas moi, avec Marine Jett, avec des gens comme ça, tu vois, sous la direction de réalisateurs français. Et je trouve que c'était intéressant, quoi, de voir comme ça les différents plateaux qu'elle a pu occuper, quoi. C'est toute une époque aussi, bon, que j'essaie de faire ressurgir comme ça au travers de ce que j'écris. Ouais.
Ça permet aussi effectivement de voir l'évolution de la production pornographique en Europe, voilà, tu l'as très bien expliqué, hein, c'est-à-dire le déclin d'un certain cinéma populaire, l'Italie qui se casse la gueule, voilà. Un secteur florissant, parce qu'on n'oublie pas, n'oublions pas que c'est une industrie, donc derrière on va aller vers quelque chose qui fait... qui va, parce qu'avec l'explosion des vidéoclubs, la pornographie s'est aussi énormément développée, parce qu'on regardait ce qu'on ne pouvait plus voir en salle. Voilà, enfin...
Bien sûr.
Je vais terminer, te demander en quelques minutes, parce qu'on arrive au bout de l'émission, parce que tu as un invité dans ton fanzine, l'autre fanzineux, parmi les plus célèbres de France, que je salue d'ailleurs, l'ami Didier Lefebvre, qui vient faire une pige donc, dans cette érotique Bazar 2 Chronique de l'Alcôve sur les Schumacher Report. Est-ce que tu peux expliquer en quelques mots ce que sont les Schumacher Report? Là, c'est pareil, il y a toute une pelletée de films. C'est totalement cul et culte, on va dire, en Allemagne. Alors, je rassure, c'est quand même relativement tout public, mais c'est vraiment très connu en Allemagne et absolument pas connu du tout en France.
Oui, c'est, alors si tu veux, c'est une série de films, bon, qui évidemment s'étale sur toutes les années 70, quoi, hein, tu vois, jusqu'au début des années 80. Je crois que si on parle de la série officielle, quoi, si tu veux, hein, on a 13 films, donc Schumacher Report, hein, 13 tiles, comme disent les Allemands, quoi. Bon, alors beaucoup ont été disponibles. Si tu veux, en France, hein, bon, on peut sortir. Alors, c'est des films, c'est pas des films pornographiques, hein, c'est des films, si tu veux, alors quoi, c'est pas des films pornographiques, mais on peut se demander si certains d'entre eux n'ont pas eu des versions, si tu veux, n'ont pas été caviardés, d'un fer hard, bon, c'est pas très clair pour certains titres, mais toujours est-il que ce sont des films, bon, plutôt érotiques, quoi, hein, voilà. Et alors, ce qui est marrant, c'est en fait, si tu veux, c'est ce dont je te parlais tout à l'heure, cette espèce de liberté folle, tu vois, qui aujourd'hui nous paraît impensable. Schumacher Report. Alors, ce qui est intéressant, c'est Schumacher, tu vois, écolière, quoi, collégie, enfin, ouais, écolière, quoi, bon, voilà. Et puis, Report. Alors, Report, en fait, c'est des faux reports, c'est des faux reportages. Ça pourrait finalement être comparé un petit peu, tu sais, à ces Mondo, tu sais, au genre un peu Mondo, tu vois. Bon, mais avec un côté presque, bon, encore plus vériste, quoi, encore plus prétendument réaliste, bon, et avec plusieurs vignettes à chaque fois de cas, comment dire, d'écolières, en tout cas de collégiennes ou lycéennes, se posant des questions sur leur sexualité, racontant leurs aventures érotiques, mais toujours en but à une société un petit peu puritaine, un petit peu coiffée du slip, tu vois. Bon, c'est des odes un petit peu à l'affranchissement, tu vois, des corps, en fait, ces films-là. Hein, mais ça peut aller très loin, si tu veux. Hein, ça peut, bon, je pense à certains épisodes. Alors, il y a une espèce de joie de vivre, tu vois, de liberté des corps, qui s'exprime, bon, qui correspond très bien à l'époque, évidemment. Et en même temps, il peut y avoir parfois des côtés, bon, assez glauques, quoi, assez dramatiques, des cas de viol, tu vois, des choses comme ça, quoi. Et alors, aujourd'hui, des trucs totalement, mais totalement impensables, des idylles qui vont pouvoir se nouer, tu vois, par exemple, entre des gamines, mais tu vois, des jeunes filles, des très jeunes filles, tu vois, et puis des adultes, tu vois, bon, des espèces de films d'initiation, en quelque sorte. Et ça forme une espèce d'étrange mélange, quoi, tu vois, d'étrange mixture, qui aujourd'hui nous paraît totalement dingue, quoi, tu vois. Voilà, c'est vraiment, moi, c'est quelque chose de très particulier. Très allemand, tu vois, très très allemand, bon, bah, ne serait-ce que dans le décor, tu vois, dans l'apparence des jeunes filles, très 70s bien sûr, et en même temps très très libertaire, quoi, tu vois. Et donc c'est quelque chose de d'assez unique, bon, et puis ce côté, alors ça c'est très marrant, ce côté très sociologique, quoi, tu vois, avec je sais pas, des espèces de comment dire, de faux sondages, qu'est-ce que vous pensez, je sais pas moi, est-ce que vous pensez que à tel âge on a le droit de comment dire, de coucher avec quelqu'un de plus âgé, enfin bref, c'est un truc assez incroyable, quoi, voilà. Mais les Allemands étaient spécialistes, hein, tu sais, de ces reports, hein. Il n'y en a pas eu que sur les Schulmädchen d'ailleurs, hein. Il y en a eu sur toute une catégorie de la population, hein, les Hausfrauen reports, c'est-à-dire sur les ménagères, quoi, tu vois, les femmes à la maison, sur les maîtres nageurs aussi, enfin bref, c'est un truc sur les fêtes de la bière, bon, et à chaque fois, évidemment, un côté érotique très, très souligné, quoi.
Ouais, bah écoute, en tout cas, ça donne envie de découvrir cet érotique bazar 2, donc Chronique de l'alcôve, donc qui est, alors il est disponible sur le site des films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr. Il est aussi disponible chez l'éditeur, hein, David Didlot, donc 9 rue Maryse Bastier, 52 000 Chaumont. Précipitez-vous sur cet ouvrage si vous avez envie d'en savoir plus sur l'érotisme, en particulier là, l'érotisme en Europe, parce qu'il y a aussi d'autres choses dans le fanzine dont on n'a pas parlé, parce qu'on ne va pas tout dire à nos auditeurs. On voyage aussi en dehors de l'Europe, hein, dans ce numéro, donc du côté sud-américain, tout ça. Donc voilà, donc je vous laisse découvrir tout cela et vous ne regretterez pas cette lecture si vous êtes férus d'érotisme, tout comme nous le sommes dans la rédaction de Culture Prohibé. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee.
une émission animée avec Damien Demédi, La Bête Noire de Compiègne, and the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Magnien à la technique. Salut les gens, à la prochaine.